Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Que dit la loi congolaise à propos de la patrie? Eh bien, on en parle dans cette émission avec le professeur Samutondi Ikomba, professeur à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Professeur Samutondi, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons également dans ces studios monsieur Christian Makambo, chargé des protections au comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patridie. Monsieur Christian, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations sur la patridie? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de la lutte contre la consommation des drogues et liqueurs fortes par les jeunes. De plus en plus, les jeunes débordent d'imagination dans la consommation des substances pour se détruire. Aujourd'hui, on parle du fameux Bombay que les jeunes consomment et qui les fait presque dormir debout. Alors, la consommation des drogues, des liqueurs, quels sont les dangers que cela représente et comment endiguer ces phénomènes? Eh bien, on en parle à partir de 10h05, heure de Kinshasa. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansunga à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers finalistes, candidats à l'examen d'État édition 2020-2021, bravo. Vous êtes à quelques pas des épreuves tant attendues. Si vous réalisez 85% ou plus, vous serez éligible à la bourse Excellencia de la Fondation Tshisekedi, une bourse d'études supérieures en RDC et à l'étranger. Visez l'excellence et maximisez vos chances de bénéficier de cette opportunité. Bon courage et bonne application.
Ceci est un message de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Près de 10 millions de personnes dans le monde vivent sans aucune nationalité. Aucun État ne les considère comme étant ses ressortissants. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'apatridie. La RDC héberge aussi des apatrides, selon le comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Dans RDC, quels sont les risques d'apatridie en RDC au regard de notre cadre législatif sur l'identité légale? Quelles sont les lacunes de la loi sur la nationalité favorisant l'apatridie et quels sont les engagements pris par la RDC pour éradiquer l'apatridie à l'horizon 2024? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien. Professeur Samutondi Ikomba est enseignant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, auteur du livre les droits du sol sous peuple, solution pour une nationalité objective en droit congolais. Il a écrit aussi plusieurs autres livres. Professeur Samutondi, encore une fois, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour, merci de nous associer à cet échange. Merci.
Bien, la première question est de savoir, c'est quoi la patridie? Bien que j'en ai parlé, mais on aimerait bien avoir une bonne définition venant de vous.
Merci beaucoup. La patridie, la définition est légale. Hein. Donc il y a cette définition qui est donnée par des conventions importantes qui nous régissent. Nous avons l'article premier, quand vous lisez la convention de 1954, elle définit la patrie comme étant la situation d'une personne qui n'a pas de rattache avec un État. Donc, pour rester un peu dans l'essence de ce qu'il donne comme définition. Donc, enfin, la patrie est définie comme la situation d'une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Donc, en fait, voilà, c'est ça, au sens de cette convention importante sur la patrie.
Et quels sont les facteurs qui peuvent amener à la patrie?
Bon, les facteurs sont multiples, mais de manière générale, ces facteurs ont été résumés, hein, parce que vous savez, cette question, comme l'avait tout à l'heure relevé, c'est une question, c'est pratiquement une question très complexe. Et les premiers des problèmes ou les premiers des situations qui peuvent conduire à la patrie, nous avons ces lacunes normatives, hein, les lacunes des lois, ce que nous avons défini tout à l'heure, disant que la patrie est une situation de quelqu'un qui n'est pas considéré, la patrie est une situation de quelqu'un qui n'est pas considéré comme national d'un État. Alors, il y a ces problèmes de lacunes législatives, donc les faiblesses du législateur dans la conception des lois, mais nous avons également les défaillances administratives, qui sont parmi les causes, hein, les causes qui peuvent être à la base de la patrie. Et il y a également les plusieurs autres aspects, notamment les changements d'État, les changements d'identité, les changements de nationalité, comment on appelle les causes normatives, nous avons l'absence d'enregistrement des enfants, la défaillance de l'état civil, les pertes de données, les pratiques administratives qui compliquent ou qui entravent l'accès à la documentation. Nous avons la migration illégale, les changements climatiques, les situations conflictuelles. Et il y a plusieurs causes, hein, qui peuvent amener quelqu'un à se retrouver sans le vouloir dans une situation d'apatridie. Vous commencez aussi à les guerres, les terrorismes et les mouvements insurrectionnels. Voilà.
Professeur, est-ce que ici en RDC, on a aussi des Congolais qui ne sont pas reconnus comme citoyens congolais?
Effectivement, parce que vous savez, la patrie même découle de questions liées à la nationalité. Et nous avons relevé tout à l'heure, on dit que ses principales causes sont en réalité ces lacunes dans les lois sur la nationalité. Et ça peut être soit à la suite d'une privation arbitraire de la nationalité, le processus lié à la succession d'État et consorts. Nous avons des lois qui régissent cette question de nationalité.
La loi de 2004.
Il est établi clairement que nos lois contiennent aussi des lacunes. Par le fait que nos lois contiennent des lacunes, il est tout à fait normal que nous ayons aussi des apatrides. Et les statistiques démontrent que nous avons des individus qui vivent sur notre territoire qui sont apatrides.
Professeur, mais on dit souvent que la nationalité s'acquiert par le sang ou par naissance, le fait qu'on soit né au Congo ou par les sangs, voilà, ça vous fait, vous avez directement la nationalité.
Bon, mais non, ce sont les grands principes.
Hein, on parle des jus soli et les jus sanguini.
Oui, effectivement, ce sont les principes. Mais il faudra, en plus de ces principes, avoir un rattachement par rapport à une filiation, le sang, ou par rapport au sol. Et là, ça se pose un problème. Il y a des individus qu'on peut retrouver sur un territoire qu'on ne sait pas rattacher à des personnes pour qu'ils puissent prétendre du sang. Donc, on peut trouver des enfants sur le sol congolais qui n'ont pas un lien de rattache avec un parent. Quel est le sort à réserver à ces enfants? Ou des personnes qui sont retrouvées dans les limites frontalières d'un État sans être en mesure d'être attachées à cet État ou à un parent. Ça pose un problème de nationalité et ces personnes se retrouvent donc dans cette situation d'apatride. Donc, voilà quoi. Donc, il y en a, la situation est la claire. Nous avons des multitudes ou des milliers d'apatrides en République démocratique du Congo.
Et parlons de cette loi de 2004 sur la nationalité congolaise. Quelles sont les lacunes qui ont été décelées dans cette loi?
Bon, les lacunes sont très majeures, hein, pour déjà poser les bases. C'est que il y a des dispositions, quand vous les lisez, parce que vous savez, lorsqu'on nous dit que la question, la naturalité est une question de souveraineté, hein, est une question d'identité de souveraineté. Il appartient à chaque État de déterminer librement par sa législation qui sont ses nationaux. Et vous savez, dans nos mentalités ou dans les mentalités de tous les États, la première des choses, c'est de chercher à préserver son territoire. Et la préservation du territoire passe par la filtration de ses nationaux pour éviter que n'importe qui ne devienne. Ben, nous avons une loi qui date de 2004, la loi du 12 novembre 024/012 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. C'est le texte de base qui organise cette question en droit congolais. Et lorsque vous scruptez le texte de bout en bout, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs faiblesses qui peuvent être dégagées, notamment certaines dispositions effectivement qui contiennent des germes d'apatridie par rapport à leur mise en application et par rapport à leur interprétation. Et déjà des dispositions comme ça, bon, on les recense, hein, c'est des discussions, hein, on les recense. La disposition majeure reste jusqu'à preuve du contraire, l'article premier de cette loi qui consacre l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. Cet article dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Ça va surprendre beaucoup de personnes, mais nous avons tendance à croire que cette disposition est porteuse de germes d'apatridie. Pourquoi ? Parce que elle concerne principalement les personnes, les Congolais d'origine, qui en même temps ont eu à acquérir une autre nationalité. La conséquence dans l'application stricte de cette disposition, c'est que lorsque un Congolais d'origine a dans la foulée, pour telle ou telle autre raison, acquis une nouvelle nationalité, il perd automatiquement la nationalité congolaise. Et donc, par ce fait, il se fait que cette nationalité qui vient d'acquérir ça, une nationalité, c'est une naturalisation, il peut en même temps la perdre. En la perdant, il se retrouve dans une situation
d'apatride.
Il devient apatride. Il se trouve dans une situation d'apatride, d'autant plus que le recouvrement de la nationalité congolaise après l'avoir perdu n'est pas automatique. Il y a une procédure, il y a des procédures qu'il faudra suivre. Et dans ce contexte, nous, c'est parmi les dispositions qui figurent, qui sont en contradiction effectivement avec cette lutte que nous menons pour éradiquer l'apatridie qui a lieu, de la revoir et de la souplir, je vois dans quel contexte on peut la reformuler. Donc voilà. Mais c'est l'une des dispositions phares, parce que les fondements, c'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui pense que toute personne a droit à une nationalité. Mais est-ce que la législation congolaise actuellement en vigueur répond clairement à cette disposition? Je crois que non. Déjà, je viens de vous donner le premier exemple de cette disposition. Et il y a d'autres dispositions. On peut aller voir notamment... Il y a des dispositions comme, excusez-moi, l'article 4, si je ne me trompe pas, de la même loi qui fonde la nationalité sur le sol par le fait d'appartenir à un groupe ethnique établi au Congo. Actuellement, on parle au 30 juin, à la question de notre pays à l'indépendance, au 30 juin 1960. Et vous allez voir que dans ces processus, il se pose un problème, déjà, parce que le législateur a manqué le courage jusque-là d'énumérer ces ethnies. Il y a des personnes comme ça qui se sont retrouvées dans nos terres, sur notre terre, ou dans notre pays, depuis des années, qui prétendent avoir acquis cette nationalité par le fait d'appartenance à une ethnie, à un groupe ethnique, mais lequel le groupe ethnique n'a pas été, ou les groupes ethniques n'ont pas été répertoriés ou clairement indicatoriés, ce qui pose encore des problèmes, qui crée des doutes, et ces personnes, c'est considérant être congolais, mais sont considérés par d'autres comme étant apatrides ou se retrouvent dans une situation telle qu'ils ne sont pas sûrs d'être rattachés à la République démocratique du Congo ou pas. Donc ce sont des dispositions, notamment comme celle-là, qui méritent notamment d'être révisitées clairement pour donner un vrai sens et que le législateur ait le courage de énumérer clairement ces ethnies ou ces tribus qui font partir de la République démocratique du Congo. Si je peux encore avancer, prenez l'exemple, je prends rapidement mon texte si j'ai encore un peu de temps.
Oui.
Je prends l'article 5, je prends rapidement le texte. Quand vous prenez cette disposition, l'article 5, elle définit les principaux termes utilisés par la loi à cet effet. La première discussion que vous ressortez de cette disposition, on vous dit, excusez-moi, je suis l'article, si je peux, article 5
de la loi sur la nationalité.
De la loi sur la nationalité.
De 2004.
Donc, oui, alors, sous cette loi, on dit, les mineurs, l'individu n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile telle que fixée par la loi, et soit nous sommes dans la disposition générale. Enfant né en République démocratique du Congo, l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire du Congo, enfant nouveau-né trouvé, les apatrides, toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par l'application de la législation, personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment les droits d'élire et d'être élu, la différence d'un étranger ou d'un membre de l'État considéré du point de vue de ses devoirs envers les partis et ses droits politiques. Donc je prends l'alinéa 5. Quand vous lisez cet alinéa 5, bien sûr que l'article 5 lui-même, c'est une grande avancée dans la lutte contre l'apatridie en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, quand vous prenez le point 4, vous y trouvez la définition déjà de l'apatrie. Mmh. Et la loi congolaise qui définit l'apatrie comme toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par l'application de la législation. Et cette disposition a été piquée carrément de cette convention. Mais le point 5 pêche, il pêche parce que il vient notamment considérer que la personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment les droits d'élire et d'être élu, la différence d'un étranger et membre d'un État, considère d'un point de vue de ses droits envers la patrie et de ses droits politiques comme étant étranger. Cette disposition, oui, effectivement, contient des termes de germes d'apatridie, dans le sens que poser ces principes fondamentaux sur la santé, comme cette question des formes de consensus trouvées, qu'est-ce que j'allais dire, la disposition. Donc, au bout de compte, il faut retenir que nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas de définition claire, conventionnelle sur la nationalité pour cette disposition, et que vouloir définir la nationalité en se référant à la situation de quelqu'un étranger est aussi un germe d'apatridie qui est préservé ou conservé dans cette disposition.
Bien, professeur Samutondi, un instant, je reviens à vous tout à l'heure. On aura le temps d'examiner ces articles qui posent problème. Le temps d'accueillir Monsieur Christian Makambo, chargé de protection au comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Monsieur Christian, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Alors, parlez-nous de ce comité, pourquoi il a été mis en place?
En fait, le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC, c'était là en sigle, a été mis en place depuis le 8 mars 2019 par le gouvernement congolais à travers les ministres de la Justice et Garde des Sceaux. Il y a lieu de dire que la RDC a pris conscience de la réalité et des affres de l'apatridie, et cela à partir de la première grande réunion internationale qui a eu lieu à Genève en 2011 à l'occasion du 60e anniversaire de la Convention de 1961 des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie, à laquelle les réunions plus de 60 États avaient pris part. Et au sorti de cette réunion, les États, dont la RDC, ont réalisé qu'il faille tout mettre en œuvre pour éradiquer ces fléaux dans le monde. Alors, au niveau africain, la RDC est partie à deux grands instruments africains qui traitent de l'apatridie. Il s'agit d'une part de la déclaration dite de Brazzaville, qui a été signée par le chef de l'État de la CIRGL en octobre 2017. En vue de l'éradication de l'apatridie dans la région du Grand Lac. Et en 2018, précisément le 12 décembre 2018, la RDC a signé un instrument au niveau de l'Afrique centrale qu'on appelle Initiative de N'Djamena, et qui ont eu pour objectif l'éradication de l'apatridie au niveau de l'Afrique centrale. Alors, au vu des engagements que la RDC auxquels la RDC a souscrit, je cite rapidement l'adhésion aux conventions sur l'apatridie. Je cite la convention de 1954 sur les statuts d'apatrides, ainsi que la Convention 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. La RDC s'est aussi engagée à réformer son cadre légal sur la nationalité, enfin de le conformer évidemment à ces deux conventions, à élaborer les plans d'action nationale de lutte contre l'apatridie et à mettre en place, en coordination avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un cadre qui permet d'identifier et de protéger les apatrides, sans oublier évidemment les activités de sensibilisation, des plaidoyers en vue des propositions de solutions durables aux personnes qui se trouvent dans la situation d'apatridie.
Alors, et votre structure est rattachée au ministère de la Justice.
Évidemment. Hein. Mais il faut rappeler tout de suite que les comités est une institution qui est
interinstitutionnelle.
C'est une structure qui est interinstitutionnelle. D'accord. Ça regroupe beaucoup d'institutions et ministères dont les attributions gravitent autour de la nationalité et l'état civil. En ce compris, on peut citer à titre d'exemple le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, dont les délégués se retrouvent aussi au niveau du comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC. Avec votre permission, je pourrais faire allusion aux deux grandes actions majeures que la RDC a entreprises.
Lesquelles?
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements. Mm-hmm. La première action, consiste au fait à la désignation du point focal gouvernemental sur les questions d'apatridie. Et puis la deuxième action, c'est la mise en place, évidemment, du comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC, et c'était là.
Ce comité existe depuis quand?
Le comité existe depuis le 8 mars 2019.
Bien. Je reviens à vous le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne M. Malonga de Bandundouville et Maître Edmond Bokolo et nous appelle de Mbandaka.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, nous parlons de l'apatridie en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce phénomène? Monsieur Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, je dis.
Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, en tout cas, je dis. L'apatridie, de ce qu'on vient expliquer là, même les invités eux-mêmes, n'ont pas vraiment une explication claire sur l'apatridie. Alors, selon moi, je vois que l'apatridie, c'est la façon dont le monde veut élever ses propres criminels.
Bon, qu'est-ce qu'on... Comment ça? On a dit que c'est des personnes qui sont sans nationalité. Donc, on ne reconnaît pas la nationalité.
Est-ce que je dis, tel que moi je suis ici, je peux manquer ma nationalité. Si j'arrive à un niveau de manquer la nationalité, je suis déjà criminel. Moi, j'ai dit cela. Je suis déjà douté, je suis mauvais, je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment suspect. Hein? Alors, c'est ça, c'est les hommes qui troublent le monde. Hein? Or, aujourd'hui, nous souffrons, ceci à l'aide, il y a ceci. Et on peut trouver ces gens-là. Ils peuvent se faire enrôler dans notre pays, et peuvent s'approprier de notre carte électeur, et ils peuvent se dire qu'ils sont des Congolais. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ils seront là pour troubler chaque jour les Congolais. Alors, pour moi, il ne peut y avoir une loi si la patrie. Parce que si une loi est soulevée là, ils seront déjà protégés. Si une fois, une personne est attrapée à ce cas-là, il doit être arrêté, condamné et chercher son origine.
Mais pourquoi vous les qualifiez de criminels?
Bon, des criminels, puisque un criminel, c'est celui qui n'a pas d'adresse. Hein, je dis. Si je manque l'adresse, je manque l'identité, je manque vraiment l'origine. Mais c'est juste. Alors, c'est par là où je dis que, en tout cas, ils sont des criminels. Alors, s'ils sont arrêtés dans notre pays, hein, puisque nous sommes dans la voie des moyens d'éradiquer l'apatridie, s'ils sont retrouvés dans notre pays, ils sont arrêtés et chercher là où ils sont venus et puis les faire entrer. S'ils ne sont pas retrouvés, alors on les emprisonne éternellement là-bas.
Merci, merci Malonga. On va donner la parole à Maître Edmond Bokolo de Mbandaka. Maître Edmond, bonjour.
Bonjour, Maître Jody. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la Patrie?
Merci beaucoup, Maître Jody. J'espère que nous avions tous compris que la Patrie est une situation d'une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Par application de la législation. Et puis, dans ce qui concerne la apatridie, ce qui leur manque plus, c'est la protection diplomatique, parce qu'on peut être un apatride, on vit dans un pays comme chez nous, au Congo, et il y a aussi ces gens-là, les apatrides, qui ont certains droits privés, certains droits civils, et puis les droits privés économiques. Moi, je pense que les législations cherchent toujours à trouver des remèdes contre la apatridie. Il existe une convention internationale du 28 septembre 1974, bien sûr, qui, dans son article 12, prévoit que donc l'apatride est soumis à la loi du domicile ou à la loi de sa résidence. Moi, je pense que chez nous, au Congo, et en fait, il n'y a pas une législation, il n'y a pas un texte fixe qui réglemente cette situation de la condition des étrangers. Ils sont considérés comme étrangers chez nous, bien sûr. Mmh. Mais je pense que avec l'avènement de la loi de 2004 que l'invité a évoqué, la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité, je pense que l'article 9, si vous la lisez, vous lisez cette loi, vous allez voir que on dit que la nationalité congolaise est accordée à l'enfant, à un enfant qui est né au Congo des parents apatrides. Voilà. Si le législateur de 2004 avait prévu cette situation, c'est justement pour essayer d'anéantir, essayer un peu de diluer, de diminuer cette situation d'apatride. Parce que si on laisse les enfants de personnes dépourvues de nationalité, ces enfants vivre sans nationalité, donc nous aurons des quartiers, nous aurons des villes pleines d'apatrides. Voilà pourquoi l'article 9 de cette loi a prévu cette présomption. Donc, on accorde la nationalité d'origine à ses enfants, oui. Justement pour éliminer ces problèmes. Mais moi, je pense que...
Là, c'est l'article, il s'agit de l'article 9.
Oui, l'article 9. Mm. Donc, on dit que l'enfant né en RDC des parents, il y a les statuts d'apatride. Voilà, et c'est une nationalité d'origine par présomption. Donc, cette situation, c'est une façon de lutter contre l'apatridie. Et puis la législation congolaise doit quand même s'apesantir pour essayer un peu de légiférer sur cette situation parce que c'est ambigu. Donc il y a certains apatrides qui viennent au Congo, bien sûr, sont protégés par la chair et par certaines conventions, les accords, bien sûr, mais il faut une législation interne qui pourra quand même les protéger également, protéger les citoyens congolais parce que certains citoyens ont peur lorsqu'ils sont envahis par les apatrides. Ces gens-là, des fois, à cause des ennuis, des problèmes au niveau de la société.
Bien, merci. Professeur Samutoni, votre réaction.
Oui, monsieur le journaliste. Oui, merci. J'ai réagi par rapport aux deux intervenants. Je salue la dernière intervention de monsieur Edmond Bokolo. C'est par là que je vais déterminer. Tout ce qu'il dit est clair, et surtout les commentaires sur l'article 9 de la loi du 12 novembre 2004. Relative à la nationalité congolaise, qui pratiquement cette disposition est l'expression de la volonté du législateur congolais de vouloir emboîter les pas de conventions internationales importantes sur la réduction et la lutte contre l'apatridie. Effectivement, c'était dans cette perspective qu'il a été prévu à cet article, l'article 9, la possibilité pour les enfants nouveau-nés trouvés ou les enfants trouvés sur un territoire d'être considérés comme congolais jusqu'à ce qu'à leur majorité ils puissent trouver une filiation avec un autre État. Mais c'est pour ne pas laisser cet enfant dans une situation de personne sans nationalité. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein, la patrie, c'est une personne qui n'a pas de nationalité. Là, j'ai rebondi directement sur monsieur Malonga.
Oui.
Effectivement, il a tout à fait raison d'avoir cette considération des choses. Mais je voudrais lui dire à monsieur Malonga que la patrie ne l'a jamais choisi. Donc on ne choisit pas d'être apatride. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure en introduisant, qu'on peut se réveiller le lendemain avec ce qui peut se passer, une situation
qu'on ne sait pas contrôler, on se retrouve à
l'apatride. Oui.
Donc c'est une situation imprévue, effectivement, parce qu'elle peut être le fait des lois, parce que les lois ne sont pas bien faites, mais elle peut être aussi le fait de la nature, une circonstance, un événement qui s'est produit, qui fait des voies apatrides. Ça n'a rien à faire avec des gens qui viendraient envahir un État ou pas. Donc ça n'a rien à faire. Donc je pense que c'est la nationalité, surtout chez nous au Congo, est souvent considérée comme un patrimoine qu'il faut à tout prix préserver. C'est ça même la difficulté de faire passer le message. Mais je remercie les HCR et tous les partenaires qui ont pris cette initiative. C'est l'occasion de communiquer à des personnes comme M. Malonde qu'aujourd'hui il est congolais, s'il vient déjà, qu'il est difficile qu'il puisse être en mesure de prouver qu'il est congolais. Parce que là, pour être congolais, il faut prouver que vous avez un certificat de nationalité. Et il est difficile de l'avoir. Les procédures aussi sont un peu très complexes. Donc là, les droits que toute personne peut avoir sont des droits qui sont liés à un État, à une nation. Mmh. On n'a pas de droits si on n'est pas lié à un État. Donc les droits à la santé, les droits à l'éducation, les droits à la protection diplomatique, comme on l'appelle, la protection de l'intégrité physique, tous ces droits sont des conséquences du fait qu'on est national d'un État. Mais comment les personnes qui n'ont pas de nationalité sont, qui sont apatrides, vivent-elles? C'est la question que nous nous posons. Comment ces personnes vivent sans citoyenneté? On ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas faire des demandes de passeport, on ne peut pas remplir les formalités.
On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Oui.
Tout ça, on est privé de tous ces droits.
D'accord.
C'est ça la raison même, le fondement de cette lutte. Donc, ceux d'entre nous qui sont citoyens d'un pays ont tendance à considérer comme si ça allait de soi. Non, ce n'est pas de soi. Et c'est la citoyenneté ou le rattachement d'un pays crée pour vous des droits. Et c'est ça la raison même qui fait que nous puissions lutter ou que toute personne ait ces droits-là. Vous savez, nous avons aujourd'hui des droits qui sont consacrés, notamment dans les différents instruments internationaux, mais également dans notre constitution qui est la loi fondamentale qui garantit ces droits. Il n'est pas admissible aujourd'hui qu'un État soit à la base de la situation d'apatridie d'un individu qui vit sur son territoire. C'est pour ça que vous voyez toutes ces dispositions qui consacrent des possibilités d'accorder la nationalité à un enfant de bonne trouvée, des parents inconnus.
Professeur Samutondi, est-ce qu'il y a déjà eu des recherches pour déterminer le nombre exact des apatrides en République démocratique du Congo?
Bon, les estimations, je ne sais pas pour l'instant, vous les donnez peut-être que M. Christian qui est sur le plateau, qui croyait que les HCR peuvent être donné les statistiques, mais tout à l'heure, on vous a relevé que c'est plus de 10 millions d'apatrides dans le monde. Mais le Congo n'est pas épargné. Le nombre est vraiment important.
Le nombre est important.
Au vu des situations que nous avons. Lorsqu'on parle de la question de nationalité chez nous, on a tendance à nous ramener à l'est du pays. Donc, c'est là qu'il y a des cas où il y a des difficultés avec la porosité, les frontières et tout ce qu'on peut dire. Mais non, cette situation est valable aussi même pour des individus qui vivent dans des grandes villes.
Oui.
Parce que on peut trouver un enfant ici pour qui on ne sait pas faire une filiation. Il se trouve dans une situation d'apatride. C'est comme ça que dans les faiblesses que nous avons relevées dans la loi du 12 novembre 2004, il y a des cas effectivement où on parle des enfants nouveau-nés trouvés. On a dit qu'il faut plutôt parler des enfants. Parce que quand on parle d'un enfant nouveau-né trouvé, c'est lui qui est encore bébé, qui est tout petit. Mais il y a aussi des adultes, ceux qui sont sur le boulevard du 30 juin, et si vous lui demandez, vous posez la question de son père, on ne connaît pas l'ethnie, on ne connaît
son
pas.
Son village,
on ne connaît pas.
Et
il est congolais ou il ne l'est pas. Il est peut-être venu dans la vague des Brazzaville. Il est brazzavillois ou il est congolais, on ne sait pas. Toutes ces personnes doivent être identifiées. Donc, toute personne, on doit plutôt parler de l'enfant, parce que l'enfant, dans la législation congolaise, au terme de l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, c'est toute personne qui n'a pas atteint 18 ans accompli. Donc jusqu'à 17 ans, 99, on est toujours enfant. Et ces personnes doivent également être protégées parce qu'ils ils risqueront d'avoir des difficultés à leur majorité. Donc c'est pour une nationalité parce qu'ils ne savent pas être reliés à tel ou tel autre.
Professeur, quelle est la solution? Professeur Samutondi, quelle est la solution face à l'apatridie?
La solution, c'est la réforme. Je salue ici la réforme qui a été faite en 2004, qui est une très bonne réforme, qui a déjà commencé à faire un grand pas, parce que quand vous lisez l'exposé des motifs de la loi du 12 novembre 2004, il dit qu'il s'inscrit dans la visée d'adhérer aux orientations données par les deux conventions précitées et de réduire les situations d'apatride. Des solutions ont été proposées, mais il y a encore d'autres solutions à proposer, notamment le fait de modifier cette loi dans certaines de ses dispositions, comme l'avons dit, pour l'adapter à ces différentes conventions, notamment, comme je viens de vous dire, les cas des enfants. Quand on parle des enfants, on parle des enfants nouveau-nés trouvés. Je pense qu'il faut soit parler des enfants mineurs ou des enfants tout court. Comme ça, au moins, on sait que le champ est encore large. On éviterait à tous ces enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas un rattache direct avec un État, d'être aussi couverts par la nationalité congolaise en attendant de se rattacher ou d'établir une autre filiation à leur majorité. Donc voilà un peu des solutions comme celles-là qui sont souvent proposées.
Bien,
la révision de la loi est une des grandes solutions. La révision de la loi.
La réforme de la loi.
Dans ses faiblesses, dans ses incohérences.
Oui.
Et l'une des grandes solutions qu'il faut préconiser pour l'instant, et c'est là ici l'occasion aussi de faire un plaidoyer, pour auprès du législateur, d'emboîter les pas, de s'inscrire dans la logique des différentes conventions, effectivement, aboutir avec le processus de ratification des deux conventions par la RDC.
Bien, professeur Samutondi Ikomba, professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, merci d'avoir participé à cette émission. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous parlons aujourd'hui du phénomène apatridie en RDC, que dit la loi, comment lutter contre cela. Nous avons dans ce studio M. Christian Makambo. On va accueillir d'abord un auditeur, il s'agit de Safari depuis Iga Barrière, en Ituri. Safari, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à M. l'invité qui est là et puis mes auditeurs aussi. Hein.
Quelle est votre question, Safari?
Ok, j'ai un témoignage. Il y avait un Malien qui a été retrouvé sur le sol français sans un document. Alors lui, sans un document, par son courage, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a procédé par le sauvetage d'un enfant qui voulait trouver d'une maison en étage. Donc il a sauvé ces bébés-là. Maintenant, le gouvernement français a commencé à le poursuivre pour son bon acte donc, qui devait être récompensé. Alors on l'a trouvé. Alors on l'a récompensé. Lui a peut-être un Malien, on l'a récompensé. Il n'est pas un Français. Mais j'aimerais savoir, dans ces cas-là, si on attrape quelqu'un sur le sol congolais, par exemple, même si ailleurs, il mappe les documents de ce pays-là, est-ce qu'il sera condamné? Parce qu'il n'a pas les documents, il vit dans un territoire qui ne lui appartient pas. Est-ce qu'il sera condamné pour cet acte?
Bien. D'accord. Merci, Monsieur Christian. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste, de me redonner la parole. Je voudrais rebondir avec votre permission sur les questions précédentes qui ont été posées par, notamment par Monsieur Malonga à partir de...
Malonga qui a traité les apatrides des criminels.
Justement, voilà. Mais aussi, je veux aussi revenir sur la question de Maître Edmo. Avant d'atterrir sur la dernière question. En fait, Monsieur Malonga qualifie les apatrides des criminels. Je crois qu'il y a lieu à travers votre radio de clarifier les choses, hein, parce qu'un apatride n'est pas un criminel. D'ailleurs, dans les statistiques données par notamment le HCR, faisant un état de 10 millions de personnes apatrides dans le monde, il faut que je précise que la plupart des personnes apatrides sont des personnes qui vivent dans leurs propres états. On les appelle apatrides in situ, à partir de leurs propres états.
Ils sont nés là-bas.
Ils sont nés comme
sociologiquement, par exemple, ils sont
congolais. Il est né en RDC, il n'a même peut-être pas eu l'occasion de voyager, mais il se retrouve comme apatride.
Parce qu'il n'a pas les documents.
Parce que, comme le professeur Osami l'a dit tantôt, les causes de l'apatridie sont une réalité en RDC. Quelles sont ces causes? les défaillances du système législatif sur la nationalité. C'est le cas de le dire parce que la loi sur la nationalité congolaise 2004, même le législateur lui-même reconnaît que cette loi contient des failles, qu'il faille et qu'il faut corriger.
Le professeur l'a dit qu'il faut réformer.
La deuxième cause, c'est les défaillances du système de gestion de l'état civil. La gestion de l'état civil en RDC est chaotique et expose les Congolais évidemment à l'apatridie. La troisième cause, que je cite dans la foulée, c'est le non-enregistrement des naissances à l'état civil. Or, l'UNICEF renseigne qu'il existe plus de 8 millions d'enfants en RDC qui n'existent pas juridiquement. C'est-à-dire dont les naissances n'ont pas été enregistrées à l'état civil. Or, une naissance qui n'est pas enregistrée expose la personne à l'apatridie. Aussi, la loi de 2004, à l'article 42, dit que la nationalité congolaise ne peut s'éprouver que par la production d'un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministère de la Justice. Combien de Congolais sont enregistrés à l'état civil?
Parce qu'en 2000, combien de Congolais ont ces documents-là?
Voilà. Combien de Congolais ont ces documents-là? Je rappelle qu'il y a des statistiques formelles qui existent. L'Institut national de la statistique avait mené une enquête en 2018. Et ces enquêtes ont révélé que seuls 40,1% d'enfants de moins de 5 ans en RDC sont enregistrés à l'état civil. Où sont partis les 60%? Voyez-vous, pour dire que les Congolais vivent dans la situation du risque d'apatridie permanent. Je voudrais même lire l'article 7 pour démontrer à M. Malonda que les apatrides ne sont pas des criminels, sont des personnes comme lui et moi, et il peut aussi se retrouver dans la situation du risque d'apatridie. Que dit l'article 7
C'est la loi sur la nationalité.
Voilà. Et Congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, père ou la mère, est Congolais. Là où c'est intéressant, c'est alinéa 2. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. Qu'est-ce que dit la législation congolaise concernant la filiation? Un enfant est censé être enregistré dans les 90 jours après sa naissance. Et après 90 jours, l'enfant peut être enregistré par la procédure judiciaire en obtenant les jugements supplétifs d'acte de naissance. À ce moment-là, en application de l'article 7, une filiation qui est établie en dehors de la minorité, c'est-à-dire l'enfant a dépassé 18 ans, même si cet enfant obtient un jugement supplétif en étant majeur, là il devient déjà majeur, la filiation qui est établie par ce jugement supplétif n'aura pas d'effet sur la nationalité.
Donc il y a déjà des risques d'apatrie.
Voilà. Or, chaque jour, si vous partez au tribunal pour enfants, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de demandes de jugement supplétif. Et la plupart des personnes qui font les demandes de jugement supplétif sont déjà des majeurs. En principe, ces personnes-là, la filiation qui est établie à travers les jugements supplétifs dont ils font la demande, n'ont aucun incident sur la nationalité congolaise.
Monsieur Christian, qu'est-ce que vous avez déjà fait au sein de votre comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie? Quelles sont vos réalisations pour lutter contre ces phénomènes et surtout sensibiliser la population?
Voilà. L'apatridie, c'est vraiment une réalité en RDC. Des millions de Congolais sont à risque d'apatridie. Pour ne pas dire même 90% de Congolais sont à risque d'apatridie. Combien de Congolais disposent de certificats de nationalité? Qui est la seule preuve de nationalité? Combien? Mais c'est regrettable. Donc, pour dire que l'apatridie étant vraiment une réalité, le comité est là, a été mis en place par le gouvernement congolais pour piloter, coordonner toutes les activités, toutes les actions en lien avec l'apatridie en RDC. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce que le comité a réalisé? Le comité accompagne d'abord les gouvernements de la RDC dans les processus d'adhésion aux conventions sur l'apatridie. Convention 1954 et de 1961. Le comité tient à harmoniser, en tant que structure technique de l'État congolais, à harmoniser le cadre législatif congolais sur la nationalité, conformément à ces conventions. Et le comité est censé, on devait même le faire depuis 2020, élaborer le plan d'action national de lutte contre l'apatridie en RDC.
Mais on n'en a pas encore,
malheureusement. Je crois qu'avec l'actuel ministre de la Justice, d'ici la fin de cette année, nous allons parvenir à valider le plan d'action lutte contre l'apatridie, dont le comité a déjà rédigé les projets, voyez-vous. Alors,
un instant, on va accueillir un auditeur, ingénieur Pierre Moussafiri, depuis la ville de Goma. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la radio Capi.
On vous écoute, ingénieur.
Merci beaucoup. Alors, moi, je pense qu'il est temps d'aborder ce genre de questions, vu que les Congolais n'ont pas de carte d'identité. C'est étonnant dans un pays où quelqu'un peut quitter un pays étranger, il vient en RDC et quelques jours après, il va s'approprier la nationalité congolaise. Alors, moi je pense que l'invité peut nous dire, qu'est-ce que dit l'article 10, même si le premier invité a abordé cette question, j'aimerais qu'il puisse nous expliquer qu'est-ce que dit l'article 15 et 10 de la Constitution congolaise. À part ça, ça m'a étonné d'attendre un quelqu'un dire au face du monde que les 90 millions de Congolais qui composent la RDC, il n'y a pas un Congolais de père et de mère. Et cela veut dire que nous tous, nous sommes des étrangers ou bien. C'est ça ma question.
Là, vous référez à la loi Tchani, c'est ça?
Oui.
Sur la nationalité. D'accord, monsieur Christian.
Au fait, je n'ai pas dit que les Congolais sont des apatrides, je n'ai pas dit ça. J'ai dit au moins que la grande partie des Congolais sont à risque d'apatridie. Et les raisons sont là. Combien de Congolais disposent de certificats de nationalité? Parce que la loi sur la nationalité congolaise dit que la seule preuve de la nationalité congolaise est le certificat de nationalité. Je ne sais pas si monsieur qui venait d'appeler a un certificat de nationalité. S'il en a, qui pose la question à son entourage, combien on dispose de certificats de nationalité? Les Congolais ne s'enregistrent pas à l'état civil. Les chiffres sont là. Seuls 40% des Congolais, des enfants de moins de 5 ans, en RDC sont enregistrés à l'état civil. Or, l'enregistrement à l'état civil a l'avantage d'octroyer l'identité juridique. C'est à partir de l'enregistrement des naissances qu'une personne commence à exister juridiquement. Mais les Congolais ne s'enregistrent pas. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. Les statistiques indiquent que 72% des Congolais de moins de 5 ans, des enfants de moins de 5 ans, sont enregistrés à l'état civil. Mais seuls 19,4% détiennent les actes de l'état civil, les actes de naissance. Vous comprenez?
C'est déjà des risques d'apatrie.
Voilà. C'est à travers les documents d'état civil, notamment les actes de naissance, qu'on peut établir la nationalité de quelqu'un. L'acte de naissance ne prouve pas la nationalité. Prouve plutôt la filiation. C'est avec l'acte de naissance que l'individu va s'amener au ministère de la Justice pour demander cette espèce de nationalité.
Mais il déplore le fait qu'on n'a pas de carte d'identité.
Voilà.
Il y a les cartes d'électeurs qui faisaient office à l'époque. Et puis, bon, les étrangers se sont également procurés les cartes d'électeurs.
Voilà. Ces plaintes confirment que et des millions de Congolais sont à risque d'apatridie.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Voilà.
À part la réforme de la loi.
La solution la plus urgente actuellement, c'est l'adhésion de la RDC aux conventions sur l'apatridie. C'est la première des solutions avant même d'envisager la réforme de la loi sur la nationalité. Il faut adhérer. Et puis l'adhésion de la RDC aux conventions sur l'apatridie est un engagement qui a été pris par la RDC. Pris d'abord en 2011,
oui.
En 2017, en 2018 et réitéré en 2019. Parce que les gouvernements congolais avaient promis d'adhérer aux conventions sur l'apatridie en 2020. Les documents existent. Il faut d'abord adhérer. Quand vous adhérez aux deux conventions qui constituent les régimes juridiques internationaux, les protections des apatrides, c'est après qu'il sera très important d'harmoniser la loi sur la nationalité congolaise.
Où les cadres et éliminer ces phénomènes d'ici 2024, voilà. À l'horizon 2024.
Voilà. La loi sur la nationalité congolaise, je le dis tantôt, mais le professeur l'a souligné, contient le germe de l'apatridie. Au fait, le gouvernement congolais, il a décidé de mettre en place le comité contre l'apatridie parce qu'il a réalisé effectivement que ces fléaux, la gangrène, écument notre pays et qu'il faille l'éradiquer. Voyez-vous. Donc, on ne dit pas que les Congolais sont des apatrides.
Un instant, Moïse nous a écrit sur Facebook depuis Goma. Cette question d'apatridie est tellement préoccupante. J'aimerais nous faire constater qu'en dépit de tout ce que le législateur congolais fait comme intention ou volonté de lutter contre ces fléaux sur terrain, la situation demeure grave.
Tout
beaucoup d'apatrides depuis Goma. C'est ce que Moïse nous dit.
Voilà. Et donc, je vais dire aux auditeurs de la radio Okapi qu'aucun Congolais n'est à l'abri de l'apatridie. Nous sommes à la radio, je ne vais pas citer de nom. Mais il y a un monsieur qui était député en 2006, réélu député en 2011, mais il est décédé apatride. On peut être Congolais comme tout le monde peut l'estimer, c'est légitime, mais le lendemain, on peut se retrouver apatride. Je vais peut-être aller très loin, même au niveau africain. Tout le monde connaît les pères de l'indépendance de la Zambie, qu'on appelle Kenneth Kaunda. C'est le premier président de la Zambie. Voyez-vous. Mais ce monsieur a été apatride pendant une année. Parce que quand lui, il a quitté le pouvoir, ses détracteurs ont pris le pouvoir. On l'a accusé d'usurpation de la société zambienne.
Là, c'est pour des raisons politiques,
on
comprend bien.
Mais justement, pour dire qu'on est tous à risque d'apatride, même moi qui suis sur le plateau. Encore qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil. Beaucoup de gens qui n'ont pas les actes de naissance, qui n'ont pas les certificats de nationalité. Et donc la question de l'apatridie, c'est une question qui est préoccupante et qui doit préoccuper tout un Congolais. Et donc, les apatrides ne sont pas des voyous. ne sont pas des personnes à mettre en prison.
Ce ne sont pas des criminels.
Ne sont pas non plus des criminels. Ce sont plutôt des personnes qu'on doit protéger, qu'on doit faire en sorte qu'elles quittent cette situation d'apatridie et vivre dans une situation normale. Parce que la nationalité, comme le professeur l'avait souligné, l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme fait de la nationalité un droit humain fondamental.
Mais Maître Edmond nous a dit que l'article 9, déjà, dit que un enfant né des parents apatrides peut avoir la nationalité. C'est aussi une façon déjà de réduire, de lutter contre ces
phénomènes.
Voilà,
cette disposition, c'est parmi les innovations de la loi de 2004. Mais il faut dire que ce n'est pas d'emblée. Parce que la loi dit, on a tendance à ne pas bien lire la loi. C'est l'article... C'est l'article 9. L'enfant né en République démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatride. Ce n'est pas l'enfant né des parents apatrides, non, les parents ayant le statut d'apatride. Le statut d'apatride, c'est comme le statut de réfugié. C'est comme le statut de Congolais. Être Congolais, c'est une qualité, c'est un statut. Il faut qu'on...
Donc, être apatride, on doit remettre aussi un document qui...
C'est à travers les statuts qu'on accède à la protection, notamment en application de la Convention de 1954.
Alors, qu'est-ce que votre structure a déjà fait? Vous avez dit que l'État doit adhérer, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que sur les terrains, les réalisations, rapidement?
Le comité a fait beaucoup de réalisations dans le cadre de l'éradication de l'apatridie.
Quoi, par exemple?
Le comité a déjà élaboré les avant-projets de loi d'adhésion aux conventions sur l'apatridie, qui attendent à ce que les autorités prennent action afin d'aller de l'avant pour l'adhésion effective de la RDC aux conventions sur l'apatridie. Le comité a mis en place une commission d'experts ad hoc chargée d'élaborer une proposition de loi révisant la loi de 2004, laquelle a l'avantage d'élaguer toutes les dispositions tendant à exposer les Congolais à l'apatridie. Le comité a récemment signé un accord de partenariat avec la CENCO à travers le bureau de liaison avec le Parlement, évidemment pour mener les plaidoyers en vue de la mise en œuvre des engagements auxquels la RDC a souscrit. Le comité a récemment travaillé avec les mécanismes nationaux de coordination de la CIRGEL pour pousser pour faire en sorte qu'on mette une bouchée double dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par la RDC, dans le cadre effectivement de la lutte contre l'apatridie. J'insiste sur un engagement de taille, c'est l'adhésion de la RDC aux conventions sur l'apatridie. Le comité actuellement est en train d'accompagner les autorités provinciales dans la mise en œuvre de feuilles de route provinciales pour l'éradication de l'apatridie à l'horizon 2024. Je cite actuellement, 4 provinces sont dotées de feuilles de route. Il s'agit de la province de Tanganyika, la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Et les autres provinces qui n'ont pas encore de feuilles de route, on a eu un atelier ici à Kinshasa du 10 au 11 juin dans le cadre de la revue de l'implémentation des feuilles de route, auquel les délégués même des provinces qui ne sont pas encore dotées de feuilles de route ont été invités. Et avec ces délégués, on a pris un chronogramme précis pour l'élaboration et la validation des feuilles de route dans les provinces.
Bien, mais ce qui est assez important, c'est que d'abord l'adhésion de la RDC aux conventions internationales.
L'adhésion et l'harmonisation. L'adhésion d'abord et l'harmonisation.
Bien, monsieur Christian Makambo, chargé de protection au comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement.
Évidemment.
Excellente journée.
Je vous en prie, merci.
Hollywood.